άλλες μπορείς να σε ρωτάς. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, c'est une question qu'on m'a dit au cas d'engage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux actifs de l'esprit de l'État, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue dans Parole aux auditeurs, ce cadre d'échange citoyen et 100% interactif pendant 55 minutes sur la fréquence de la paix. Les députés nationaux ont rejeté le jeudi 13 octobre dernier deux projets de loi présentés par le ministre de la fonction publique, Pascal Issoulichaud. Le premier est sur les règles relatives à la sécurité sociale des agents publics de l'État et jugé relevant du domaine réglementaire. Par contre, le projet de loi modifiant et complétant les décrets loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État a été rejeté par Zocar, étant d'une matière déjà légiférée. Certains analystes estiment que ce rejet aura de l'impact sur le processus de réforme de l'administration publique. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Nico Kalambay assure la réalisation de cette émission. Sylvain Matundu est à la mise en œuvre de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Nous recevons pour vous et pour nous, afin de faire un échange réellement citoyen, monsieur le ministre Pascal Issoulichaud, ministre de la fonction publique. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Deux projets de loi rejetés, quels sont les sentiments que vous avez?
Ben, écoutez, d'abord, je dois dire merci pour l'invitation de ce matin. C'est toujours un plaisir hein, de venir rendre compte à la nation. C'est un devoir de redevabilité. Alors, je ne veux pas parler de sentiments, mais si vous le permettez, je voudrais peut-être essayer de circonscrire ou présenter un peu le contexte. Vous avez évoqué le cas du projet de loi modifiant et complétant le décret loi numéro 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. Qu'est-ce que je peux dire? Le code d'éthique de l'agent public de l'État, c'est un décret loi qui avait été pris à l'époque, en 2002, par le président de la République, pour vous donner une ligne de conduite en matière éthique de tout agent public de l'État. Et dans cette décret-loi, il est prévu que le chef de l'État, les membres du gouvernement fassent la déclaration de leurs biens, n'est-ce pas, à l'ancien fonction. C'est ce décret-loi qui a conduit à la création de l'OSEP.
L'Observatoire.
Exact. Mais qui vient d'être renforcé dans son pouvoir d'action. Parce que par décret de son excellence, monsieur le Premier ministre, l'OSEP est devenu tout simplement un observatoire d'aide, de surveillance et de lutte contre la corruption dans notre pays. Parce que le chef de l'État fait de la lutte contre la corruption
sociale.
Alors, pour renforcer le pouvoir de l'OSEP, le gouvernement a pensé utile de modifier et de compléter ce décret-loi. C'est pour cela que nous l'avons proposé sous forme d'un projet de loi. Étant donné qu'un décret-loi est une loi, nous avons pensé qu'une autre loi pouvait bien modifier et compléter. Alors, certains honorables députés ont pensé que ce n'était pas le cas. Bon, qu'est-ce que vous voulez?
Alors, qu'en est-il alors de la loi sur les projets de loi, donc sur les règles relatives à la sécurité sociale des agents publics? Parce qu'on sait tout de même que cette loi, vous l'attendez vraiment de pied ferme et même à bras ouverts, dans la mesure où le chef de l'État venait d'ailleurs de promulguer la loi relative, la question sur la caisse des retraites, ou encore bien avant d'autres choses.
Oui, oui, merci beaucoup. Je dois commencer par remercier et féliciter sincèrement l'Assemblée nationale comme le Sénat parce que ils ont voté la loi portant statut des agents de carrière des services publics de l'État.
Mmh.
Et une des innovations importantes de cette loi qui a été promulguée par le président de l'État, c'est le changement du régime qui passe du régime d'octroi vers le régime contributif, avec comme conséquence, bien sûr, la création de la caisse de retraite. Alors, si vous permettez, parce que j'ai pris avec moi cette loi, le statut, il est écrit ceci à l'article 141. Les dispositions du titre 5 de la présente loi relative aux avantages accordés après cessation définitive des services, à l'exception de ceux pris en charge par l'organisme public prévu à l'article 121 de la présente loi, sont d'application en attendant l'adoption et la promulgation de la loi portant sécurité sociale des agents des carrières de service public de l'État. Ça veut dire que la loi sur la sécurité sociale des agents des carrières de service public de l'État est une suite logique du statut qui a été voté par les honorables députés et qui a été promulgué par le chef de l'État.
Ça renvoie directement et nous donnons raison à certains observateurs qui disent maintenant ça risque d'être un travail inachevé.
Alors, attendez. Au niveau de l'Assemblée nationale, certains députés, je dis bien certains députés, ont estimé qu'un règlement d'administration pouvait permettre la mise en exécution de ce statut. Pour le gouvernement, c'est pas sans problème, parce qu'un règlement d'administration, c'est un décret du Premier ministre qui peut être pris facilement. Seulement, cette loi dont certains députés estiment qu'elle ne pouvait pas être examinée au niveau de l'Assemblée nationale, si nous n'avons pas cette loi, même la Caisse nationale de sécurité sociale ne concernera que les agents qui sont régis par ce statut. Alors que l'idée de cette loi et l'idée de l'article 141 du nouveau statut, c'est de faire en sorte que tous les agents qui sont payés par le Trésor public, qui ont des systèmes de sécurité sociale différents, parce qu'ils sont régis par des statuts différents, se retrouvent régis par une seule loi de sécurité sociale. D'ailleurs, à l'époque, lorsque une loi générale de sécurité sociale avait été présentée à l'Assemblée nationale, c'est la commission PAJ de notre Assemblée nationale qui avait estimé qu'il fallait séparer. Parce que cette loi générale, dit d'ailleurs loi Bahati, avait un chapitre, contenait un chapitre qui concerne les agents de services publics de l'État avec leurs particularités liées à leur statut. Et c'est au niveau de cette commission PAJ de l'Assemblée nationale qu'on a estimé qu'il fallait séparer.
Pour des raisons évidentes.
Voilà. Et donc, à ce moment-là, si nous n'avons pas cette loi, la Caisse nationale de sécurité sociale aura bien lieu,
mais ne concernera
que les agents des carrières des services publics de l'État, et donc les policiers, les militaires, les enseignants, les professeurs, les magistrats ne seront pas concernés. Alors que notre idée est que tous ceux qui sont payés par le Trésor public doivent être concernés. Pourquoi ? Dans le système d'octroi, l'État voulait tout prendre en charge. Nous nous sommes vite rendus compte que ce n'est pas possible, ce qui explique le passif des éligibles à la retraite. Alors, nous voulons décharger, alléger la tâche de l'État pour que tous ceux qui sont payés par l'État commencent à contribuer.
Les députés ont estimé voilà, que c'est pas, ça relève donc du domaine réglementaire. Alors, pour dire qu'il faut juste travailler au niveau du règlement intérieur de statut de carrière de l'agent public, ou bien je ne sais pas quand on parle de domaine réglementaire, pour éclairer davantage des uns et des autres.
Domaine réglementaire, ça signifie qu'un règlement d'administration devrait suffire. Et aujourd'hui, un règlement d'administration, c'est un décret de son Excellence, Monsieur le Premier ministre.
Mmh.
Je viens de dire que si nous prenons,
Si
nous avons ça va limiter, n'est-ce pas, et ça ne va pas compléter
la loi qui venait d'être,
d'être promulguée et votée par l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on va voir comment.
C'est l'article 141
oui,
de la loi portant statut de les agents de carrière des services publics de l'État qui venait d'être d'ailleurs promulgué au mois de juillet.
Et voté par l'Assemblée nationale au mois de mai.
Et l'article demande à ce qu'on puisse attendre la loi
sur la sécurité sociale.
Alors maintenant, faudrait-il revoir encore cette loi qui a été déjà promulguée, et ça risque de faire les débats. Maître Moïse Nezarejoué à Goma, Jean-Claude Akindou, Chris à Kinshasa, 081-890-6315. Pour votre intervention en direct, mesdames et messieurs, vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook, vous qui nous suivez à travers les pays et aussi à l'étranger. Nous vous signalons que les débats se tiennent également sur notre page Facebook.
La division de l'information publique de la MONUSCO célèbre la journée internationale des Nations Unies avec au service service. Ce vendredi 21 octobre de 9h à 11h en direct de la salle des spectacles du Centre Bobo à Kinshasa. Au programme, les Nations Unies, les objectifs de développement durable et la nouvelle citoyenneté. Jeudi, Daniel Kessama et toute l'équipe d'Okapi Service vous quittent rendez-vous ce vendredi 21 octobre de 9h à 11h à Bobo-Dé. Okapi Service, en direct de la salle Bobo-Dé, un rendez-vous spécial à l'UFAMA.
Parole aux auditeurs.
Voilà, il faut retrouver toute l'équipe de Capi Service ce vendredi au la salle Bobo-Dé pour une émission spéciale en rapport avec la journée des casques bleus, pardon, la journée des Nations Unies, le 24 octobre 2016. Voilà, Maître Moïse, vous nous avez rejoint, vous êtes à Goma, bonjour et bienvenue.
Bonjour Gilles, salut également et son excellence Monsieur le Ministre qui est dans votre plateau. Salut également le Congolais qui nous suit à ce moment. Alors, je salue d'abord la supervisibilité du ministre, qui venait d'avouer effectivement que ces deux propositions de loi ont été rejetées au niveau du Parlement. Et en le suivant, certainement le Parlement a raison de rejeter ces deux projets de loi. Pourquoi, M. Vuillère? Parce que, d'abord, moi je considère que non, ce sont les lois des plus, puisque... dans le domaine des conduites de l'agent public de l'État, il y a déjà une loi qui réglemente ce secteur, d'ailleurs qui est en application jusqu'à aujourd'hui. Et par rapport également à la sécurité sociale, notamment, il y a aussi une loi qui est en vigueur, qui pouvait certainement être peut-être avoir des surprises conformément à la recommandation des députés, comme on dit, et non, ce sont des domaines réglementaires. Donc, il ne suffit pas seulement de proposer des projets de loi, mais je crois que le ministre, à son tour, il devrait beaucoup plus se baser sur l'application d'abord des lois qui étaient déjà en vigueur, comme les codes de bonne conduite de l'agent public qui est là aujourd'hui en application. Le ministre devrait plutôt veiller à ça et voir si ce n'est pas... conformément comme...
Oui, Maître Moïse, vous avez suivi Monsieur le ministre tout à l'heure, qui évoquait la réforme qui était quand même nécessaire, d'autant plus qu'on était obligé de quitter au régime octroyé, à un régime de contribution, et qui devait concerner tous les agents qui sont payés par les trésors publics. Et aujourd'hui, par rapport à la loi qui venait d'être promulguée par le chef de l'État au mois de juillet dernier, sur les statuts portant carrière des agents de carrière des services publics de l'État, entre l'article 141, il était bien dit que la loi sur les règles relatives à la sécurité sociale faisait donc suite à cette loi. Vous ne pensez pas que cela peut avoir aujourd'hui un impact sur le processus de réforme?
Oui, monsieur, c'est vrai, mais je crois quand même que notre ministre est allé vite en besogne, puisqu'il devait d'abord faire le bilan par rapport à l'époque. Quand il dit que non, pour savoir, il y a d'autres agents qui ne seront pas pris en charge, alors en réalité, même les agents qui sont d'abord là, ils ne sont pas budgétisés, ils ne sont pas matriculés. Il devait d'abord faire des sommiers pour matriculer les agents
et qu'ils soient aussi mécanisés afin de lutter pour la seconde étape de la sécurité sociale des agents de carrière du public de l'État. Aller directement à solliciter certains, les autres ne sont pas mécanisés, les autres sont encore impies, d'abord la majorité des agents congolais, je crois que c'est à l'aide. C'est pourquoi je dis que non, le ministre devait d'abord faire le bilan par rapport aux des lois en application, notamment les codes de bonne conduite de l'agent public de l'État, mais aussi la sécurité sociale des agents d'abord qui sont déjà mécanisés et matriculés avant de proposer d'autres. Qui pourrait être des lois de plus par rapport à ce que nous avons déjà fait.
Merci beaucoup, Maître Moïse, d'avoir appelé de Goma. Vous saluez d'ailleurs la sportivité avec laquelle le ministre a accueilli le rejet de ces deux projets de loi, bien entendu avec des raisons qu'il a développées tout à l'heure. Pour vous, vous estimez que les parlementaires ont raison car ça constitue des lois de plus. Et vous demandez au ministre de commencer d'abord par faire le bilan du code de bonne conduite, cette loi relative au code de bonne conduite des agents des carrières de l'État et aussi la sécurité sociale. C'est à ce niveau-là que vous pouvez dégager les faiblesses et voir dans la mesure du possible comment proposer une autre loi. Merci beaucoup, Maître Moïse, d'avoir appelé les Goma. Jean-Claude, vous êtes à Kindu. Bonjour et bienvenue.
Oui, merci. Bonjour, Jean-Romain. Bonjour aussi à l'invité, son Excellence, Monsieur le ministre Pascal Ifungicho.
Bonjour.
Quel est votre avis, après avoir suivi d'ailleurs votre prédécesseur qui a donné raison aux parlementaires?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai donc raison à Maître Moïse de Goma. Tout observateur objectif vous dira que le processus de réforme dans notre pays bat de l'aile. Bat de l'aile dans le sens que aujourd'hui.
Voilà, on a des soucis avec la ligne de Jean-Claude à Kindu. Le temps que la réalisation puisse le rappeler, on va prendre Chris qui est à Kinshasa. Chris, bonjour.
Bonjour, Jérôme Ngembo. Bonjour à notre invité qui est sur le plateau.
Oui, avant que la ligne de Jean-Claude puisse se couper, vous l'avez suivi, il a dit, pour lui, le processus des réformes de l'administration publique bat encore des l'aile.
Évidemment, en ce qui concerne la thématique du jour, moi je pense que les problèmes ne se basent pas sur les projets de loi. En fait, les problèmes se basent sur l'application de ces lois-là. D'autant plus qu'il y a combien de lois dans notre pays qui sont déjà votées et pour ne pas être appliquées. Donc c'est clair, monsieur JR, c'est clair dans le sens où moi, je vois que les problèmes se basent sur les domaines réglementaires, donc la loi organique de cette fonction publique. Je ne diabolise pas l'initiative de la réforme de notre fonction publique, c'est bien. Mais nous devons aussi tenir compte d'autres paramètres, lesquels il faut aussi faire tout d'abord le bilan de ceux-là qui restent dans cette fonction, dans cette administration publique, ils sont au nombre de combien? Et ceux-là qui sont partants de cette administration publique, ils sont au nombre de combien? Et ceux-là qui sont partants, tenir compte de leurs conditions sociales. Si il faudrait à ce qu'ils puissent avoir leurs avoirs, tant mieux. Au lieu seulement de se baser sur des votes sur des lois, faire des projets de lois. Donc, moi, je pense que ça n'ira pas des lois aux lois, mais le problème, c'est pas sur.
Oui, oui, mais si je comprends les crises, pour vous, il faut d'abord établir le rapport entre les agents et les fonctionnaires de l'État qui sont actifs aujourd'hui et ceux qui sont éligibles à la retraite. Comme ça, ça peut nous permettre déjà de dégager ces petits bilans qui pourraient à long nous permettre de dégager aussi les faiblesses de la loi existante. C'est ça, Chris Kalala.
Oui, normalement, c'est ça. Donc, savoir le but, donc, en fait, le nombre de ceux-là qui sont restés et ceux-là qui sont partants, et qu'est-ce qu'il faudrait à ceux-là qui sont partants? Donc, les problèmes ne se basent pas seulement sur les projets, mais les problèmes se basent sur l'application de ces.
L'application. Merci beaucoup, Chris. On va prendre Maître Omar. Maître Omar, bonjour et bienvenue. Maître Omar, vous êtes avec nous?
Oui, allô, je vous écoute.
Voilà, redynamisez un peu votre voix parce que là, on vous écoute à peine.
Allô, c'est bon maintenant, je suis...
Oui, plus ou moins, donc vous pouvez aller.
Oui, j'ai dit que merci du genre que vous m'attendez, je salue quand même par son excellence. Avant tout, je voudrais faire une petite de temps sur l'émission, bien que mes papas, totalement pédagogique, a aussi un aspect pédagogique pour dire que le décret-loi n'est pas une loi comme le ministre l'a dit, mais le décret-loi c'est un acte et en sorte de loi, on ne peut pas se comparer à une loi. C'est des choses différentes. Alors, parlant de la réforme d'initié, moi également, je soutiens les députés qui ont rejeté cette loi. C'est vrai, vous savez, lorsque nous débattons sur la réforme de l'administration publique congolaise, nous avons toujours soutenu la réforme. Ah, le pacte développement commence aussi par la réforme. On se rend compte que hier, en RDC, on se limite à mettre en place des réformes écrites, mais il n'y a pas un mécanisme de suivi d'application. En gros, ça n'est trop et trop des lois de facture et dynamisme d'un fonctionnement d'un État. C'est vrai que la réforme principale était celle de quitter l'État initial pour aller au système consolidatif que nous avons loué. Il fallait rajeunir l'infrastructure que nous avons louée. On se rend compte hier qu'on s'est vertu à standardiser, à moderniser l'administration, mais qu'on n'attaque pas le vrai problème qui ronge, qui torture l'administration congolaise. Aujourd'hui, on va passer au système consolidatif, c'était bien une bonne chose. Mais avec quel salaire, avec quelle garantie sécuritaire? Le vrai problème, monsieur le ministre, n'est pas d'initier des réformes de loi, des théories. Le vrai problème, c'est d'attaquer les vraies causes qui font que notre administration ne puisse pas marcher. Et pourquoi les députés s'en sont plaints? Pourquoi ils sont fatigués? Ça fait beaucoup d'années, beaucoup de mois que vous faites des réformes, mais les réformes qui ont déjà été initiées n'ont même pas eu de solution. Mais on en a encore créé d'autres. Moi, je l'ai toujours dit hier, les vrais problèmes qui auront notre administration sont connus. Il y a premièrement, les conditions dans lesquelles travaillent les fonctionnaires congolais. Il faut en fait standardiser, en fait moderniser, en fait rajeunir. Donc, si longtemps qu'on n'arrive pas à mettre dans des bonnes comme ceux qui doivent fournir l'administration, on fera toujours votre face, on ne va rien faire, monsieur le ministre. Il y a autre chose. Les anciennes lois, en soi, ne sont pas mauvaises. On a eu un ancien décret qu'on avait qui régissait l'administration publique. Les droits déjà qui garantissaient les fonctionnaires n'étaient pas respectés. Parce que si on n'a pas pu respecter les droits garantis dans l'ancienne loi, allons-nous respecter les droits garantis dans la nouvelle loi? On a comme l'impression qu'une maison est sale à l'intérieur, on la décore, c'est mal dehors, on la paie, et on pense que tout a été arrangé. C'est ce qu'on veut. Il y a des bonnes lois qui sont proposées, des bons textes, mais les vrais problèmes qui concernent l'administration congolaise n'est pas traité. Il y a, monsieur le ministre, aujourd'hui, des gens qui ont fait 10 ans dans la fonction publique, qui n'ont pas de matrices, qui ne sont pas mécanisés, et qui vivent difficilement. Mais vous n'en traitez pas. Mais on est vraiment là pour parler de système consommatif, de système civil. Les Congolais sont fatigués des théories qui nous dorment, pour passer à l'action. La réforme, c'est une bonne chose, mais traiter les vrais problèmes. Il y a aujourd'hui des gens qui sont non payés, ça fait beaucoup de mois. Si vous parlez peut-être dans les ministères des Sports.
Oui, maître Omar, en tant que juriste, ne voyez-vous pas une inadéquation entre la loi qui venait d'être promulguée par le chef de l'État relative au statut des agents des carrières publiques et aussi qui devait, en principe, cette loi qui vient d'être rejetée, qui devait faire suite à cette loi en rapport avec la disposition de l'article 141. Est-ce que vous ne réfléchissez pas de cette façon-là que cela risque de bloquer la machine qui n'est autre que le processus de réforme?
À vous parler de l'article 141, dis quoi je pense.
L'article 41 dit exactement ceci. Les dispositions du titre 5 de la présente loi relative aux avantages accordés après cessation définitive des services, à l'exception de ceux pris en charge par l'organisme public prévu à l'article 121 de la présente loi, sont d'application en attendant l'adoption et la promulgation de la loi portant sécurité sociale des agents des carrières des services publics. Donc, une loi qui a été déjà promulguée en son article 141, qui attend une autre qui fait suite à cela, et aujourd'hui, on bloque, vous ne craignez pas, comme tous les autres, vous ne redoutez pas que ça puisse bloquer aussi la machine à suite du processus.
Bon, en matière de catégorisation de lois, il y a des lois modificatives et des lois complémentaires. En tant que juriste, je pense que si on a une disposition, il y a une disposition transitoire. Parce que le travail ou la fonction publique va de pair avec la sécurité sociale. Lorsqu'on dit que cet article-là pourrait être suspendu ou quoi jusqu'à la nouvelle loi, ce n'est pas une adéquation ou encore une incohérence. Parce que dans la catégorisation des lois, il y a des lois complémentaires qui viennent compléter la première loi, des lois supplétives. Mais le vrai problème, c'est quoi?
Mais maintenant qu'on a rejeté, il n'y aura, aura même pas cette loi qui vient compléter, parce qu'on a rejeté, donc il n'y en aura pas. Donc on ne peut plus parler de loi complémentaire, ah, oui. J'imagine.
Oui, donc du point de vue théorique, à mon avis, en tant que juge, je pense qu'il n'y a pas une adéquation parce que dans la catégorisation des lois, pour la consistance d'un fonctionnement d'une chose, il se peut qu'on prenne une nouvelle loi qui vient de compléter, on appelle cette loi complémentaire, des lois modificatives ou encore des lois supplétives. Mais si on a pu rejeter, c'est parce qu'il y a trop de lois, il y a trop de théories.
Voilà, je crois que ce n'est pas la raison qui a été avancée par les parlementaires. Merci, M. Thomas. On va peut-être avancer évidemment dans le débat avec les autres qui vont nous rejoindre. 081-800-9315 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Et nous rappelons que le débat se tient également sur notre page Facebook. Monsieur le ministre, vous venez de suivre les interventions des uns et des autres. Hein. Donc il y a d'ailleurs Moïse qui a salué votre sportivité par rapport à ce régime. Mais tous, comme Moïse et Jean de Kindou, ils demandent à ce que vous puissiez d'abord faire les bilans. Des bilans de l'application de ces deux lois, disons de la loi sur le code de bonne conduite, et afin de dégager les faiblesses d'abord de cette loi pour voir la suite du processus.
Merci beaucoup. Hein. Je crois que c'est un peu difficile parce qu'il s'agit du cadre juridique. Mais je voudrais commencer d'abord par remercier tous les compatriotes qui viennent d'intervenir. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce que, comme je l'ai toujours dit, tout agent aujourd'hui qui n'est pas mécanisé, qui n'est pas payé, il est fatigué. Ça, nous reconnaissons. Le bilan, le diagnostic qui a été fait pour notre administration publique l'a bien démontré. Et donc, c'est normal qu'on demande aux juges de faire le bilan. Parlant de ce code de conduite, en faisant le bilan, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a que le président de la République et les membres du gouvernement qui sont assujettis à déclarer leurs biens, leurs avoirs, avant d'entrer en fonction. Et là, voulant élargir le pouvoir de l'observatoire, qui vient d'être élevé au rang d'établissement public, nous avons voulu que tout agent de l'État fasse cette déclaration et que chaque année, on puisse déclarer ce qu'on a gagné pendant l'année. Et nous avons estimé qu'une loi pouvait donner force à cela. Ok, vous voyez, c'était ça l'idée du gouvernement. Nous voulons lutter contre la corruption. Il faut une loi qui donne à cet établissement public, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays. La RDC a même signé et ratifié des accords, des conventions au niveau international. C'est ça l'objectif. Revenons maintenant à la loi sur la sécurité sociale. Bien. On me demande de faire le bilan parce qu'il y a des noms mécanisés, parce qu'il y a des noms payés.
NU.
Je vais me limiter à la retraite. N'est-ce pas? Nous savons aujourd'hui que le un quart au moins des effectifs que nous avons, c'est des agents qui sont éligibles à la retraite. Donc, le bilan, il est connu, nous le savons. Nous savons qu'il y a à peu près les trois quarts qui ne le sont pas encore. Mais pourquoi cette masse, environ 200 000? C'est parce qu'effectivement, nous avons évolué dans un système d'octroi où l'État se croyait être capable de prendre en charge ne serait-ce que l'aspect pension de retraite. Je ne parlais pas d'autres aspects de sécurité sociale, les maladies, les allocations familiales, les décès, ainsi de suite. Nous nous sommes rendus compte que l'État ne peut pas être capable seul de prendre en charge. Parce que dans les autres pays, on sait comment ça se passe. L'agent cotise pendant sa carrière. C'est pour cela qu'il a été proposé par le gouvernement dans le nouveau statut ce changement de régime, et nous avons félicité et remercié le Parlement pour l'adoption de cette loi. Nous avons félicité et remercié le chef de l'État pour la promulgation de cette loi. Conséquence, nous devons mettre en place une caisse nationale de sécurité sociale qui va alors pouvoir drainer les moyens pour résoudre petit à petit le problème qui se pose pour la mise à la retraite et les autres aspects du système de sécurité sociale. Alors, nous avons pensé que tout le monde qui est pris en charge par les trésors publics devrait être concerné. Parce que qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Nous avons plusieurs statuts. n'est-ce pas, pour un seul employeur, qui est l'État. N'oublions pas que c'est la même Assemblée nationale qui, à l'époque, avait dit qu'il faut séparer et avoir une seule loi pour les agents des services publics de l'État. C'est ce que le gouvernement a voulu proposer. S'il faut aujourd'hui harmoniser, il y a un choix à faire. Soit nous avons une loi qui nous permet de faire en sorte que tout le monde soit régi par un même système de sécurité sociale, ou alors qu'on revoie les différents statuts. Nous, le gouvernement a pensé que c'est plus facile d'avoir une loi unique que de commencer à revoir les différents statuts. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, ce sont les agents des carrières de service public de l'État qui sont concernés et qui pourront être concernés par la Caisse nationale de sécurité sociale. Ils sont payés par l'État. Mais les autres agents, les magistrats, les militaires, les policiers, les enseignants, qui sont aussi payés par l'État, eux vont continuer dans un système d'octroi. Mmh. C'est ça le problème, quoi. C'est un peu ça. Alors, on veut effectivement qu'on commence d'abord par mécaniser. On a raison. Effectivement, si les gens ne sont pas mécanisés, il n'y aura même pas beaucoup d'argent dans
la caisse.
Mais pourquoi on ne peut pas vouloir faire les deux à la fois? Parce que la mécanisation, le gouvernement est en train de s'en occuper, nous sommes en train de régulariser. Beaucoup d'agents vont être mécanisés. Vous l'avez bien suivi, le contrôle de la paye qui a été réalisé par le ministère du budget, le ministère de la fonction publique, a mis en évidence des moyens qui sont utilisés pour la mécanisation. Nous faisons la mécanisation, mais en même temps, nous nous occupons de la sécurité sociale. Je veux dire, au niveau personnel.
Juste une parenthèse, parce que vous venez d'ailleurs d'une mission au niveau de Calémie. Est-ce que vous avez constaté que la situation aujourd'hui des agents et fonctionnaires de l'État à Calémie, prenons juste cette partie du pays, ça peut constituer un exemple, disons, pour le pays. À Calémie, aujourd'hui, on peut compter combien de non-mécanisés?
Ouh là là, je viens de Calémie, je viens de Colossi, je viens de Litouri. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, si nous prenons les effectifs des agents et fonctionnaires de l'État, au niveau national, la moyenne, c'est au moins 35% qui sont des NEU. Vous voyez? Mais pourquoi nous avons des NEU aujourd'hui? Je l'ai déjà dit. Les NEU, ce sont des agents qui ont été recrutés en violation de la loi.
Chaque ministre qui est arrivé.
Chaque ministre qui est arrivé, même au niveau local, même des chefs de division qui recrutaient des gens
des bureaux,
en violation de la loi. Et nous sommes en train de régulariser cette situation. Vous voyez? La mécanisation concerne ceux qui ont déjà le numéro matriculé. Ceux qui demandent le numéro matriculé, ce sont les NEU. Et nous sommes en train d'y arriver, parce que nous avons même autorisé...
Mais on a l'impression que ça a déjà une épine sur les pieds de tous les ministres de la fonction publique qui passent les NEU.
Mais c'est tout à fait normal, parce que la crise a été très très profonde. Et aujourd'hui, on voudrait voir le résultat en une fois. Nous venons de passer un an à la crise
de la
fonction publique. Voilà. Nous avons voulu, dans le cadre de la réforme de l'administration publique, d'abord avoir un cadre juridique. C'est la loi dont nous parlons maintenant, le statut. C'est la loi organique qui consacre la décentralisation administrative. C'est d'autres projets de loi. Vous voyez. Donc, au niveau du gouvernement, le Premier ministre peut prendre un décret, ce n'est pas un problème, mais ça nous limite. Ça signifie que parmi les agents payés par le Trésor public, une catégorie, ceux qui sont régis par ce statut, va évoluer dans le système contributif. Voilà, et les autres vont évoluer dans le système d'octroi. Alors que l'idée
est... C'est cette ambivalence-là,
exact.
De l'administration.
Exact.
Ça risque de...
Donc, c'est pas une guerre. Non, pas du tout. C'est de la responsabilité du gouvernement de dire, voilà, nous voulons que tous ceux qui sont pris en charge par les trésors publics passent vers le système contributif. Nous, que nous ayons une caisse qui concerne tous les agents payés par l'État, et c'est cela qui résolvera petit à petit le problème. Si on n'y arrive pas, il n'y a pas de problème, nous aurons un règlement d'administration, un décret du Premier ministre, mais cela sera limitatif.
Alors, on va prendre les auditeurs qui nous ont également rejoints dans ces débats. Amos à Bukavu, Mekadi à Kananga, à Aristote de Kolwezi. Amos, bonjour.
À tous les invités de la radio de la paix. Bonjour à l'invité au studio, le professeur est sous l'issue.
Voilà.
Ah bon, en fait, en suivant les déclarations du professeur ou du ministre, mais aussi en analysant les deux projets là, on peut penser que les députés ont décidé les travailleurs congolais, les agents qui attendent les retraites, mais aussi les millions de jeunes congolais qui sont en chômage aujourd'hui et dont le pourcentage est évalué à plus de 90. Mais il faut se poser la question, et c'est là que le ministre vraiment doit expliquer les milliers de Congolais qui sont en train de le suivre. Qu'est-ce qui a poussé aux députés de rejeter ces deux projets? D'abord, s'agissant de la sécurité sociale des agents. Nous pensons que peut-être les députés ont raison, parce qu'ils ont constaté que d'abord les lois que nous avons, les textes que nous avons dans le cadre des agents de l'État, ne sont pas respectés. Et ils ont compris qu'on ne sera pas là en train de donner des lois, de proposer des lois, des projets de lois, mais sur le terrain, il n'y a pas applicabilité. Et c'est ça le grand problème. Même pour ceux qui ont aussi de ce deuxième projet-là, pour portant modification et complétant le décret loi 017 de 2002, du 3 octobre 2007. Moi, je pense que c'est le même cas parce que vous allez comprendre depuis que cela a été initié, on a suivi aux médias, toutes les radios l'ont diffusé. Mais est-ce que ces agents, pour ce qui est de la conduite des agents de l'État, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font absolument rien. On voit, on nomme quelqu'un, même le vitesse lui-même au studio. Il a été nommé à ce ministère, il n'a pas déclaré tout ce qu'il a combien. Et c'est ce qui fait fâcher. Il fallait d'abord que lui-même soit l'exemple. Depuis qu'il avait été nommé, on ne l'a pas vu lui-même montrer le bon exemple par rapport à ce qu'il vient initier aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème dans ce qui est de la fonction publique en République démocratique du Congo. Parce que nous constatons que toutes les lois qu'on a déjà initiées, ces lois n'ont jamais été appliquées. C'est là que les ministres devaient commencer en analysant d'abord les lois qui existent. Est-ce qu'elles ont réussi? Est-ce qu'elles ont connu comme faille avant d'entreprendre le projet qu'il a?
Oui, Amos, nous avons
eu... Dans le cas contraire, ça sera une aventure.
Oui, Amos.
Et ça va décevoir tout le monde.
Amos, s'il vous plaît. Amos, si on peut s'écouter, parce que nous avons fait toute une série des émissions ici dans cette radio avec le ministre Nico Michaud qui nous a honoré d'ailleurs encore aujourd'hui par rapport à cette question. Ben, il est vrai que les bilans ou les constats, l'état des lieux est connu. Et je crois que ce n'est plus quelque chose de nouveau ou encore les colliers bien. Mais pour avec le souci de pouvoir avancer avec le processus, le ministre, par deux fois dans ce studio, nous avait expliqué que l'objectif du gouvernement, c'était de quitter le système de droit au système contributif. Et entre autres, comme activité, il fallait obtenir la caisse des retraites, il fallait avoir la caisse des retraites et également demander à ce que les nouvelles unités soient mécanisées. Alors, tous ces problèmes constituent des étapes à suivre dans le cadre du processus. Aujourd'hui, vous n'estimez pas, comme les autres, que ça peut constituer un blocage, le fait qu'on a rejeté ces projets de loi qui devaient même faire la suite de ce projet qui venait d'être, de la loi qui venait d'être promulguée par le chef de l'État.
Justement, j'y ai. Mais il fallait d'abord que nous ayons les bilans de toutes les lois existantes. Toutes les lois que nous avons connues, on ne connaît rien de leurs bilans. Mais aussi, je me dis aujourd'hui, si vous essayez d'analyser, vous allez comprendre que le grand problème que connaît aujourd'hui la fonction publique en RDC est qu'il y a népotisme, il y a clientélisme, trafic d'influence, mais aussi népotisme. Et tout ça, le ministre le sait. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord pour mettre fin à ça? Aujourd'hui, pour engager les gens, il faut que tu sois d'un parti politique de la majorité. Pour que tu sois engagé.
Bon,
c'est pas
l'exemple.
On a engagé les ALI-NPP. On a engagé les ALI-NPP. On a créé notre cellule qu'on appelle CPCE. Et le ministre connaît tout ça. Dernièrement, on a créé notre service au sein du ministère de l'Environnement qu'on appelle Fonds Forestier National. On a engagé les gens, on ne sait pas, on les a ramassés où? Dans la rue. Et le ministre connaît tout ça. Et aujourd'hui, ceux qui ont essayé de dénoncer ça à Bukavu, le mouvement soit élevé des indignés, font l'objet de menaces, même de menaces de mort de la part du ministre des Mines, qui l'a fait. Et le ministre présent au studio connaît tout ça. Il fallait d'abord qu'il nous explique.
Voilà.
On va quand même faire la part des choses à Mons quand vous parlez de l'ULPP, et ça ne relève pas de pas une APP, c'est tutelle, en fait, parce que l'ULPP, c'est tout tutelle du ministère du Travail et Prévention Sociale, et vous venez de parler du ministre des Mines, encore là aussi, un dossier qui ne concerne pas le ministère de l'Administration, bon, je ne crois pas à cause du ministre présent, mais tout de même, parce que vous avez évoqué les cas du népotisme et les autres, mais je vous dis, sincèrement, qu'il y a un décret mettant en place l'Observatoire de la lutte contre la corruption au niveau de l'administration publique. Bon, alors vous aurez des amples détails auprès du ministre qui est d'ailleurs dans notre studio. Merci beaucoup, Amos. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour aussi à son Excellence, Monsieur le ministre.
Bonjour. Quel est votre avis et quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, merci, cher, de la parole que vous m'accordez. Je pense que je suis très déçu, vraiment déçu de la décision de l'Assemblée nationale, parce que lorsque j'analyse les raisons invoquées par l'Assemblée nationale pour rejeter ces projets de loi, je me dis qu'il n'y a que dans notre pays où on peut donner de tels argumentaires aussi légers. Pierre, lorsque je me suis mis à jeter un coup d'œil à ces projets de loi, je me suis rendu compte que c'était des lois qui venaient pour enrichir, pour compléter la loi qui venait d'être promulguée. Je finis ça. Donc, avancer comme raison au jour d'aujourd'hui qu'il y a d'autres lois qui ne sont pas d'application, moi je me suis dit c'est
une aberration pour vous.
Oui, d'échec dans les chefs de notre assemblée, parce que l'assemblée a le pouvoir de contrôle sur le gouvernement. S'il s'est rendu compte qu'il y a des lois votées, promulguées, mais qui ne sont pas appliquées, la procédure était simple, donc de convoquer, d'appeler donc soit le ministre de tel ou tel compartiment, parce que chaque ministre est responsable de son département, pour lui poser des questions pourquoi la loi telle était votée, mais il n'est pas appliquée. Là, c'est de un. De deux. Et moi, je me dis, est-ce si la loi existante n'est pas appliquée? Est-ce que c'est un problème du ministre des tutelles? Parce que nous avons le principe de séparation des pouvoirs. Nous connaissons quel est le pouvoir qui est chargé pour l'application de telle ou telle autre loi. Donc voilà, à éliminer ce que j'ai dit d'abord. Deuxièmement, lorsque nous entrons maintenant dans le souci ou bien dans l'argumentation de l'Assemblée nationale, mais hier, moi je me dis que soit nos députés étaient fatigués, leur esprit était tourné peut-être au dialogue, ils ne voulaient pas traiter calmement de cette loi. Parce que si on estime qu'il y avait certaines dispositions qui figuraient déjà dans l'ancienne loi, la moindre des choses, c'est donc, c'est pas pour rien, il y a la corruption péagie qui existe pour les toilettages. Parce que rejeter d'emblée donnait l'impression que non, voilà, c'est la même loi. Moi, je m'inscris en faux par rapport à cette procédure. Pour revenir maintenant.
Est-ce que vous partagez l'avis de certaines personnes qui estiment qu'il y a eu un peu de la passion ou des sentiments dans les traitements, mais c'était pas vraiment objectif cette décision?
Exactement, je partage totalement cet avis. Il y a vraiment beaucoup de passions. Ils n'ont pas, donc ça c'est mon avis, ils n'ont pas analysé froidement ces deux projets de loi. Parce que moi je suis en train de regretter la loi sur la sécurité sociale, parce que je me dis c'est une loi enrichissante par rapport à l'ancienne loi qu'on contient. Parce qu'on ne peut pas au jour d'aujourd'hui, moi je suis un avocat, mais prouver que non, voilà, c'est la même chose, non. Et aussi, si je reviens maintenant par rapport au propos de son Excellence, de l'Université pour la question que vous lui avez posée, moi je suis aussi contre son Excellence, parce qu'il dit que le NI se recrutait selon les têtes, il y avait violation de la loi en récitant donc les nouvelles unités. Moi je me dis, si son Excellence, Monsieur le ministre, ça rappelle à la question des nouvelles unités, prétextant qu'il y avait violation de la procédure. Mais comment son Excellence, par rapport à certains anciens retraités qui ont, donc permettez-moi la tautologie, qui étaient retraités à la violation flagrante de la même loi. Mais là, le ministre est têtu et il a laissé passer ça. Mais
voilà, quand c'est une préoccupation directe, Maître Brière, c'est une préoccupation directe. Je crois qu'on va permettre quand même au ministre de placer un mot là-dessus par rapport à ce que vous venez de dire. Hein, comment on dit, la récupération des retraités, des gens qui étaient déjà retraités, et on va encore le récupérer. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être le ministre qui comprend mieux cela.
Non, je voudrais dire que notre compatriote a complètement raison. Et je n'ai pas dit que le ministère de la fonction publique ne s'occupe pas des nouvelles unités. J'ai voulu que l'opinion comprenne d'abord d'où nous viennent les nouvelles unités. Et nous sommes en train de régulariser. Nous ne pouvons pas continuer à violer la loi. C'est pour cela que nous autorisons aux nouvelles unités de participer au concours de recrutement. D'ailleurs, ça me permet de répondre à la préoccupation d'Amos, c'est qu'il a dit « Aujourd'hui, on est en train de recruter ». Mais non, ce n'est pas ça le recrutement. On doit recruter en respectant la loi. Si aujourd'hui, quelque part sur l'étendue de la République, on est en train de recruter par clientélisme, on n'organise pas le concours de recrutement, le ministère de la fonction publique n'est pas informé, parce que si ce sont des agents de l'État, c'est le ministre de la fonction publique qui va les admettre sous statut. Eh bien, ils ne seront pas admis. Et après, dans un an, deux ans, ils vont venir se présenter comme des nouvelles unités. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Donc, lorsque le compatriote dit non, le ministre, il sait ce qui se passe à gauche, à droite, eh bien, non. Si le ministère de la fonction publique n'a pas autorisé ce recrutement, alors ces agents-là ne seront pas admis sous statut. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une disposition prise par son exemple, le Premier ministre, interdisant recrutement tout mouvement du personnel sans son autorisation. Alors, si on a violé cette disposition, eh bien, ces gens-là vont venir gonfler, malheureusement, ou bien vont créer une nouvelle catégorie de nouvelles unités qui vont demain commencer à réclamer, alors qu'ils ne seront jamais admis sous statut, parce qu'on a violé la loi au moment où on le sait déjà. Si on considère qu'avant, il y a eu un problème de vulgarisation, aujourd'hui, tout le monde sait que pour être recruté dans la fonction publique, il faut passer un concours pour occuper un poste vacant qui est budgétairement prévu. Et pendant un an, je ne cesse de le répéter. Donc, vous voyez, vous permettez alors que je réagisse peut-être aux autres interventions de
rapidement,
amis. Alors, on me dit qu'il faut aujourd'hui d'abord la mise en application de la loi. Et je vais donner un exemple. La mise en application du nouveau statut, c'est la création de la caisse de retraite, qui est déjà créée, pour laquelle l'équipe chargée des missions est déjà mise en place.
À l'époque, vous aviez un problème de bâtiment. Est-ce que vous l'avez déjà résolu?
Eh bien,
le bâtiment, le local où vous avez habité, d'ailleurs, c'est cette caisse des retraites.
Nous sommes suffisamment avancés.
Vous avez des pour parler avec le gouverneur de la ville.
Exactement.
Et que vous l'avez déjà obtenu.
Si nous sommes suffisamment avancés, nous avons même élaboré d'autres règlements d'administration qui vont nous permettre. L'objectif, c'est lequel? D'ici décembre 2016, cette année, il faut que cette caisse devienne fonctionnelle. J'avais dit ici qu'au cours du premier trimestre de l'année 2017, nous devons commencer à payer. Vous voyez? Donc, nous sommes dans l'application. Mais
maintenant qu'on a déjà un accord politique issu du dialogue, les gouvernements et le nouveau gouvernement, sauf imprévu, interviendra dans trois semaines.
Oui.
Ben alors, si jamais aujourd'hui il y a un changement de gouvernement, ces idées, le principe de continuité, vous ne craignez pas vous-même? Que cela puisse souffrir quand même.
Mais hier, je crois que vous venez de le dire, une réforme comme celle-ci ne peut réussir que dans la continuité et dans la durée. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau gouvernement et que moi je ne suis plus là, j'espère en tout cas que celui qui prendra ma place comprendra qu'il faut continuer et il faut rester constant. Moi, qu'est-ce que j'ai choisi de faire?
Le combat était certes normatif,
ouais.
Avec le cadre de stratégie et qui a été d'ailleurs mis sur pied sous votre mandat.
Exact.
Il y a la loi portant un statut des agents des carrières de l'État,
d'administratifs.
Ouais. Il y a tant d'autres. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a deux qu'on vous renvoie à avoir une réglementation ou un règlement au sein de l'administration.
Ouais.
Mais tout ça, ça met dans votre actif. Mais les vrais problèmes maintenant, c'est la continuité.
Alors, je veux dire que pendant un an, nous avons passé du temps à jeter les bases juridiques. Maintenant, nous sommes dans la phase d'application. Il y a quelques temps, vous me posez la question ici, à quand la caisse? Je vous disais, d'ici la fin de l'année. Eh bien, la caisse est déjà là. Qu'est-ce qui reste? Il reste les cotisations. Mais pour que les gens commencent à cotiser? Il faut qu'il y ait une loi qui clarifie. Bon, si ce n'est pas une loi, si c'est un décret, il n'y a pas de problème. Mais notre objectif est que d'ici la fin de l'année, il faut que cette caisse existe. Donc, lorsqu'on me dit qu'il faut d'abord appliquer les lois qui existent, en tout cas, aujourd'hui, au niveau du ministère de la fonction publique, c'est ce que nous faisons. Lorsqu'on me parle du bilan, je vous dis, comme vous l'avez dit, le bilan, nous l'avons toujours fait. Aujourd'hui, quels sont les acquis? Nous avons le système d'octroi qui est devenu le système contributif. Nous avons voulu que cela concerne tous les agents et fonctionnaires de l'État par une loi. Si cela ne passe pas, nous allons le limiter aux agents qui sont régis par le statut. Ça sera dommage parce que nous aurons une partie.
Parce que la période,
nous aurons une partie des agents payés par l'État
qui
vont être dans le système contributif. Et d'autres dans le système d'octroi. C'est ça ce que veut la nation, mais qu'est-ce que vous voulez? Sinon, pour le gouvernement, il fallait que tous ceux qui sont payés par le trésor public soient régis par un même système de sécurité sociale. Et d'ailleurs, je le répète, lorsqu'on l'avait proposé, c'est la commission PAJ de l'Assemblée nationale qui avait dit non, prenez cet aspect, vous en faites un nouveau projet de loi. C'est ce que le gouvernement a fait. Vous voyez. Et donc, je vais répéter, si aujourd'hui il y a des recrutements anarchiques, eh bien, ces recrutements-là vont créer une nouvelle catégorie de nouvelles unités qui ne seront pas admises sous statut.
Voilà, on va poursuivre cette édition, ce débat, et merci à vous tous qui continuez le débat d'ailleurs sur notre page Facebook, et beaucoup particulier à ceux qui sont en train de suivre en direct sur notre site à travers à l'étranger, Madame Josephine, et aussi tout ça depuis Bruxelles. Maître Jean-Paul, vous êtes en Bandaka, Aristote Colusi. Maître Jean-Paul, bonjour. Voilà, Maître Jean-Paul, vous êtes en direct.
Oui, je voudrais dire que nous estimons, quant à nous, que le Parlement, l'Assemblée nationale est allée trop vite en besogne. Et nous voudrions rappeler quelques choses. Quand est-ce qu'il y a la modification d'une loi? Il y a modification d'une loi lorsqu'il y a des cas saillants, cruciaux, qui se présentent pour l'intérêt de la nation. Et dans les faits, oui ou non, il y a des cas saillants. Eh bien, bien sûr, il y a des cas saillants. Et nous, je crois que le Parlement, l'Assemblée nationale, précisément, devrait prendre l'ancienne loi et les projets de loi parallèles et examiner de manière scrupuleuse, voir si, oui ou non, on peut modifier la présente loi pour l'actualiser au fait qui se présente selon la demande du gouvernement. Voilà.
Alors Jean-Paul?
Oui, allô?
Oui, Jean-Paul?
Oui, allô?
Oui, vous êtes avec nous?
Oui,
voilà, si je comprends bien, vous dites que les parlementaires ou les députés sont allés vite en raison. Il était question qu'on puisse apporter des modifications ou des amendements.
De lois parallèles et examiner de manière scrupuleuse et voir les cas saillants qui se présentent pour l'intérêt de la nation.
Merci beaucoup. Merci Jean-Paul d'avoir appelé de Mandaka. Est-ce que vous êtes à Colusi? Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Gilles.
Quel est votre avis et quelle est votre contribution à ce niveau de débat?
Bonjour monsieur le journaliste, mon énergie est de savoir tout ce qui se passe dans notre actuel gouvernement. Et tous ceux qui sont nos ministres actuels ne sont pas vieux. Pourquoi je le dis? C'est eux-mêmes qui ont voté les lois ou instauré la constitution, mais ils ne sont pas en mesure d'appliquer toutes ces lois. Et
voilà. Aristote, Aristote, il faudrait quand même faire la part des choses, hein. Les ministres ne légifèrent pas, n'est-ce pas? Il y a l'institution habilitée à le faire, c'est l'Assemblée nationale ou encore le Sénat, donc le Parlement. Hein, le Parlement. Donc, on ne peut pas parler de cas de l'adoption ou de vote de loi, disons, au Conseil exécutif. Merci beaucoup, Aristote. Alors, on revient rapidement à vous, avant de retrouver confiance, monsieur le ministre. Tout à l'heure, Amos évoquait un problème en disant que c'est vrai, c'est que vous demandez aujourd'hui aux agents et fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire déclarer leur savoir à l'entrée de la fonction, mais vous-même, vous ne l'avez pas fait. Mais que je sache, il y a eu. Cet atelier de formation organisé par le Premier ministre Matata, lors de son gouvernement Matata 2, je crois, au niveau de Mbasa-Ngongo avec les ministres pour signer le contrat de performance. Et à ce titre-là, on avait demandé au ministre de déclarer les avoirs. Est-ce que vous l'avez fait pour apaiser les uns et les autres?
Merci, Gilles. Si vous m'avez bien suivi, vous avez compris que je suis très, très respectueux des auditeurs. Et c'est pour cela que je n'ai pas voulu dire à mon frère Amos, qui n'est pas du tout informé.
Je ne voulais pas non plus laisser ça en suspens, sinon...
D'accord. À mon entrée en fonction, j'ai tout déclaré, et ça se trouve, bien sûr, au niveau de la Cour. Et tous les membres du gouvernement, ils déclarent. Le président de la République, il déclare. Les autres agents ne déclarent pas. Et c'est pour cela que nous avons voulu... compléter la loi. C'est tout ça que l'opinion apparemment n'arrive pas à me comprendre.
Mm-hmm.
Pourquoi le président de la République et les membres du gouvernement doivent déclarer leurs avoirs à l'entrée de la fonction et à la sortie? Parce que moi j'ai déclaré, je le répète, tous les membres du gouvernement ont déclaré, le président a déclaré, le premier ministre a déclaré, mais pas les autres agents. Nous avons voulu étendre pour la bonne gouvernance cela à tous les agents des cahiers de service public de l'État. Donc, vous voyez, c'était ça.
Alors, confiance, vous êtes à quelqu'un ça. Confiance, vous êtes avec nous? Confiance?
Oui, bonjour.
C'est Confiance Kabongo?
Oui, c'est moi, j'appelle le Kinshasa.
Le Kinshasa, voilà. Oui. Alors, Confiance, vous avez suivi les uns les autres, mais on sent qu'il y a quand même de la passion hein, dans cette histoire. Les uns soutiennent les députés qui ont posé cet acte de régime. Et d'autres qui disent, mais voilà, ces derniers sont allés vite en besogne, d'autant plus que cette action pourrait avoir un impact négatif sur le processus de réforme, et nous venons de suivre d'ailleurs le ministre, qui en fait regrette du fait que le gouvernement, dans les soucis du gouvernement, c'était de sortir de ce système d'octroi à un système contributif. Maintenant, ça va prendre toute une masse importante des agents fonctionnaires. Alors, on comprend que vous êtes à Kinshasa, le train est en train de passer, hein, c'est le format direct. Alors, Confiance, vous êtes en direct. Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Et nous avons confiance à Kinshasa. Confiance, tout à l'heure, on a annoncé votre arrivée dans cette émission, dans ce débat. Quelle est votre contribution à ce niveau de débat?
En fait, à ce niveau de débat, j'ai toujours dit, comme d'habitude, en soi, nous n'avons pas de mauvaises lois. Mais nous n'avons que de personnes qui ne savent pas appliquer nos lois. Nos lois sont tellement claires que si vraiment on les appliquait, on n'aurait même pas besoin de lois parallèles pour les appuyer. C'est ce sens-là que je pourrais intervenir. Moi, j'aurais souhaité en fait que chaque fois qu'on va commencer à légiférer, qu'il y ait toujours une autre loi qui essaie de contraindre ceux qui doivent respecter la loi. Donc, qu'il y ait des lois qui sont beaucoup plus contraignantes.
Mm-hmm.
Oui, qu'il y ait, lorsqu'on légifère, lorsqu'on vote une loi, j'aurais souhaité toujours qu'à côté de cette loi, qu'on dise toujours, celui qui n'applique pas cette loi, voici la sanction qui va accompagner son agissement. Donc, c'est dans ce sens-là que nous devrions... Normalement, une loi, même si on doit la modifier, c'est pour le bien de l'État ou le bien de la population, ou c'est dans ce sens-là. Mais nous nous rendons toujours compte que les lois que l'on vote, on le fait pour satisfaire certaines personnes, pour sécuriser certaines personnes. C'est là où il y a un danger. En soi, nous n'avons pas de mauvaises lois.
Donc, si je comprends bien, vous raisonniez tout à l'heure, M. Adrien, qui parlait de sentiments, de manque d'objectivité dans la décision prise par les parlementaires, parce que modifier les lois,
c'est-à-dire, nous avons des gens qui font des lois taillées sur mesure, des lois qui sont attachées à des personnes. On vote une loi parce qu'on veut faire plaisir à
quelqu'un, si on vote une loi parce qu'on veut exclure quelqu'un. Donc c'est ça le mal dans ce genre de choses.
Alors vous ne craignez pas que cela puisse constituer aussi une pesanteur, une contrainte pour la poursuite du processus de réforme de l'administration publique?
Bon, en fait, il n'est pas mauvais que les gestionnaires de l'administration publique déclarent leurs biens, parce que ça nous permet aussi de voir qu'est-ce qu'il a eu après avoir été à des hautes fonctions de l'État. Parce que sincèrement, on le dit pas. On dit que les gens ont déclaré leurs biens, par exemple. Mais en réalité, on l'a pas dit. On le dit à huis clos, par exemple. Mm-hmm. Mais je le souhaite à ce que
il y ait
toujours des contraintes. Oui. Par exemple, c'est pas quand même normal. Il y a une loi, par exemple, qui dit que celui qui travaille dans une organisation de l'État ne peut pas faire le commerce. Mais vous allez vous rendre compte que ces mêmes personnes se trouvent par-ci, par-là, en train de faire le même commerce qui est interdit par la loi par rapport à leur fonction.
Voilà pourquoi cette loi portant code de conduite de l'agent public de l'État devait servir d'interface aujourd'hui pour aider ou tant soit peu à résoudre cette difficulté que vous évoquez. Merci beaucoup, Confiance Kabongo, d'avoir appelé de TPC. Maître Laurent, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, maître.
Oui, bonjour, Jean. Bon, en tout cas, moi je pense que monsieur le ministre n'a qu'à se calmer, d'autant plus que je sais si le Parlement ou l'Assemblée nationale a dit rejeté ça.
Ne pensez pas
qu'ils sont soit négligents ou quoi, mais ils savent que contient ce projet de loi et que ça ne cadre pas avec la position politique de la majorité. Alors, comme ça ne cadre pas avec leur philosophie, il faut rejeter bien que ça peut être bon, une bonne proposition de loi, ou un bon projet de loi, mais comme ça ne cadre pas avec la philosophie, même l'intérêt de la classe politique, alors ils n'ont qu'à rejeter ça. Mais tout ce que moi je dirais, c'est pour dire que nous ne sommes pas dans un état de droit. Parce que là où on est dans un état de droit, c'est la justice qui permet ce qu'est l'état de droit, ou lorsqu'il y a des gens qui n'appliquent pas la loi, qui violent les lois, le procureur général de la République, avec tous les magistrats, ils sont là, la magistrature debout, ce sont eux qui poursuivent tous ceux qui violent les lois. Mais comme chez nous, en tout cas, cela n'est pas possible, vu que ce sont les politiques et les politiciens qui dominent la justice. Alors, nous ne sommes pas dans un état de droit, je pense que ça ne sert même à rien de se poumonner pour ça, pourquoi on a rejeté ou pourquoi on veut faire la réforme, parce que avec la politique actuelle, c'est inutile de penser comme si on peut prendre une loi et l'appliquer. On n'appliquera jamais une loi tant que la justice n'est pas indépendante. Donc, ça ne sert même pas à rien de continuer à se poumonner pour cela. Nous attendons le jour où il y aura un chef qui dirait que non, moi, je viens pour remettre, donner la justice au peuple congolais. Et c'est celui-là qui pourrait maintenant mettre la justice indépendante et laisser la justice fonctionner, même contre lui-même, lorsqu'il viole la loi.
Merci beaucoup, maître Laurent. Vous inquiétez un peu par rapport au sentiment qu'a aujourd'hui les ministres. Vous l'avez demandé, je n'ai pas l'impression, parce que je suis avec lui au studio, il n'est pas très agité. Seulement d'ailleurs, vous savez, quand on voit son bébé tomber malade, on ne peut qu'avoir un peu d'inquiétude. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il y a un auditeur au début de cette émission qui a salué derrière la sportivité du ministre. Donc, on peut quand même refuser aussi notre invitation par rapport à ce rejet. Et là, il a même si bien dit, aujourd'hui, le système d'octroi que lui et les autres ministres ont décrié pour réclamer actuellement le système contributif, bon, ça ne sera pas dans son ensemble, ça ne concernera pas tout le monde, ça concernera plutôt une catégorie des agents et fonctionnaires de l'État. Dommage. Et bon, voilà, la caisse de retraite qui fonctionnera, bien entendu, déjà, et comme il l'avait annoncé par plusieurs fois dans nos émissions. Merci beaucoup, Maître Laurent. Maître Trésor, vous êtes à Kinshasa. Maître Trésor Junior, bonjour et bienvenue.
Merci beaucoup, Radio Kafi, de la parole que vous m'offrez. Je tiens de prime abord à saluer les députés qui ont fait leur travail, soit s'il est de leur devoir d'approuver ou de rejeter un projet de loi ou une proposition de loi. Dès lors qu'un projet ou une proposition n'est pas bon ou ne contribue pas au développement du pays. En fait, je pense dans ce secteur des services publics ou de la fonction publique, il y a une ancienne loi. Donc je trouve pas d'importance pour que nous puissions encore, ou que les députés parviennent encore à voter une autre loi de plus. Donc, automatiquement, ce qu'ils ont fait, c'est une chose de grande envergure que moi-même j'ai saluée. Donc, j'ai même aimé la sportivité, comme l'a dit le précédent auditeur, la sportivité avec laquelle a réussi le monsieur le ministre, Pascal, le fait que son projet de loi a été rejeté au niveau du Parlement. Moi, je propose ceci. Au lieu que, qu'on puisse abroger la loi de façon à part entière, hein, que les parlementaires prennent ce courage-là d'amender ou soit de renforcer cette loi qui régit les secteurs publics avec des mécanismes.
Merci beaucoup, Maître Trésor. Alors, il y a beaucoup à dire, nous risquerons même de prendre toute une journée. Monsieur le ministre, Pascal Echaud-Michaud, vous êtes ministre de la fonction publique, à ces jours, est-ce qu'on peut dire que le processus de réforme de l'administration publique a atteint sa vitesse de croisière?
Oui.
Parce que ce débat, ça prouve à suffisance qu'effectivement,
c'est réformable. Je crois que vous avez trouvé le mot qu'il faut, en tout cas. Nous avons passé un an dans la suite de ce qui avait été commencé avant nous, à jeter les bases juridiques. Nous avons déjà toutes les bases juridiques par la promulgation des lois par le chef de l'État. Et donc, le train a atteint la vitesse de croisière, on ne peut plus faire marche en arrière. Parce que s'il fallait réformer, il fallait le faire hier. Nous sommes en retard, nous devons aller jusqu'au bout. Deuxième chose, il faut dire que l'application d'une loi, parce que c'est ce qu'on nous demande, dépend évidemment de ceux qui doivent l'appliquer. C'est le cas des nouvelles unités. Si aujourd'hui on continue à recruter à gauche à droite, eh bien, nous devons appliquer la loi. Même le jour où nous dirons que ces gens-là n'ont pas été recrutés conformément à la loi, il faudra que l'opinion le comprenne. Troisième chose, il faut remercier et féliciter les honorables députés et sénateurs, parce que quoi qu'il en soit, ils ont donné à la réforme de l'administration publique, cette année, en tout cas, deux lois importantes. La loi organique sur la décentralisation administrative et le nouveau statut. Ce nouveau statut avait comme conséquence la mise en place d'une caisse de retraite qui nous permettra de mettre les éligibles à la retraite pour un rajeunissement. Si jamais on ne peut pas le faire pour tout le monde, parce que la loi sur la sécurité sociale prévoyait que cela concerne tout le monde, eh bien, nous allons l'appliquer pour ceux qui sont régis par le statut. C'est un peu dommage parce qu'il y a une catégorie d'agents payés par le trésor public qui vont continuer dans le système d'octroi, alors que nous voulions généraliser le système contributif. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que nous allons avoir des règlements d'administration. Le Premier ministre va les signer certainement, mais un autre Premier ministre peut venir et changer. C'est pour ça que nous voulions sécuriser cette loi de sécurité sociale pour que... Pour la modifier, il faut encore repasser par le Parlement, par le président de la République. Maintenant que ça va être un décret du Premier ministre, ça signifie un nouveau Premier ministre peut changer et il peut remettre en question la Caisse nationale de sécurité sociale, qui est l'établissement public, c'est-à-dire que c'est encore une fois un décret du Premier ministre qui a institué la Caisse. Et donc, si aujourd'hui l'opinion estime qu'il ne faut pas sécuriser le système de sécurité sociale, ben, moi je crois qu'en tant que ministre, j'ai fait mon travail. Je crois que le gouvernement a fait son travail.
Dernière question, aujourd'hui, est-ce que les fonctionnaires ont été à leur poste de travail?
Aujourd'hui, en tout cas, moi je suis arrivé au bureau à 6h30, comme d'habitude. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. On va prendre un dernier auditeur, juste il va placer un mot, le temps nous fait défaut. Katinder, vous êtes à quelque chose?
Oui.
Quelle est votre contribution? Juste en une phrase.
Je voudrais, merci pour m'avoir accordé la parole. Ma contribution, je voudrais poser la question au ministre, parce que il y a eu une ordonnance qui mettait les agents à la retraite en 2009-2010. Parmi ces agents, il y a des agents qui sont étudiés. On leur a payé les décomptes finales et les frais de rapatriement. Il y a eu une autre catégorie qui avait introduit des recours parce que l'ordonnance n'a pas suivi les normes administratives.
Voilà, dommage, on ne saura pas aller plus loin avec vous, M. Katende. Cette réponse, vous la trouverez sur notre page Facebook. Nous allons prendre d'ailleurs la réponse du ministre et qu'on mettra sur notre page Facebook où se tient d'ailleurs ces débats. À vous tous, nous souhaitons en tout cas une très bonne journée. Et nous pensons d'ailleurs à Sylvain Matundu qui a assuré la mise en œuvre de ce programme réalisé par Nico Kalambay sous la coordination et la présentation de J.R. Lungembo Luabung Angie. Et cette émission a été supervisée par Martin Sebou Jangwe. À très bientôt pour un autre numéro. Merci, Monsieur le Ministre. À très bientôt.